Radio Foot International,
Sofiane Amazian.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce lundi pour Radio Foot International. Que ce week-end fut explosif dans le championnat de France avec l'Olympique de Marseille balayé 3-0 sur la pelouse d'Auxerre. Alors oui, il y a le sportif d'un côté, mais aussi ce qu'il s'est passé après le match et la sortie incendiaire du président de l'OM, Pablo Longoria, à propos de l'arbitrage, une soirée qui laissera des traces dans l'histoire de la Ligue 1. Longoria a-t-il poussé le bouchon trop loin? Le club marseillais est-il carrément lésé par l'arbitrage? C'est la grande question du jour. L'OM trébuche, Nice et Lille peuvent sourire. Les Dogs sont venus à bout de Monaco et se relancent dans la course au podium. Les Niçois, eux, sans faire de bruit, comblent leur retard sur la deuxième place. Ils ne sont plus qu'à 3 points de Marseille. Nice, un candidat crédible à la Ligue des Champions, pour en parler notamment Dominique Sévrac et Hervé Penaud. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Mais quel plaisir.
On n'en parle pas de ces Niçois quand même. Hein. Un petit peu tapis dans l'ombre.
C'est vrai, ils sont discrets.
On va les réhabiliter dans Radio Foot.
Monsieur River n'a pas encore pété un plomb. Donc
comme un autre président de Ligue 1 qui lui a pété un plomb, vous avez bien compris de qui. Je parlais, eux sont bien partis pour finir en tête du championnat. Les Reds de Liverpool se sont imposés ce week-end sur la pelouse de Manchester City. On parle de Première Ligue, Mo Salah a été décisif comme à chaque fois. Comme à chaque fois, City déçoit dernièrement, tout comme Arsenal tient donc deuxième, et battu par West Ham. C'est à se demander qui veut aller chercher le podium. Liverpool et Arsenal, c'est quasiment fait, il reste une place pour 6 équipes, la Première Ligue, c'est vraiment un autre niveau. Bruno Constant, bonjour.
Bonjour.
Là, c'est digne d'une série Netflix, la Première Ligue.
Mais comme toujours, la Première Ligue, c'est magnifique, quoi. C'est renversant et c'est pas fini. Attention.
Ouais,
c'est
vous
pas
en
fini.
Êtes décidément un vrai bel ambassadeur. Tout est réuni pour une très belle émission Radio Foot International. C'est parti.
Magnifique, superbe. La JOCR attaque peu, mais la JOCR attaque. Très bien, le carton pour Cornelius et c'est le deuxième pour le défenseur canadien. Ils sont fous sur le banc de l'Olympique de Marseille.
Ah oui, il y a Roberto Di Zerbi, vient même de taper la tablette avec son pied.
Le dribble, la sortie de Rulli, la faute ou pas? Le pénalty pour la GIA. Le carton jaune pour Geronimo Rulli. Challenge compliqué pour les hommes de Roberto Di Zerbi.
Bah, je ne sais pas si il y a quelque chose contre l'OM. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets qui sont contre l'OM. Et ça, quand même, inquiète un petit peu tout le monde. Tous les clubs.
Frustration terrible, la colère aussi sans doute des Marseillais.
C'était un arbitrage scandale, c'est là qui s'est passé ce soir, je pense que c'était vraiment honteux. C'était honteux l'arbitrage de l'arbitre.
C'est très certainement l'image du week-end. Pablo Longoria, président de l'Olympique de Marseille, hors de lui. Après la défaite cuisante de ses joueurs sur la pelouse d'Auxerre 3-0, l'Espagnol disjoncte. Et s'attaque d'abord à l'arbitrage qu'il estime injuste à l'encontre de son équipe, puis au championnat de France. Un craquage filmé et qui va avoir des conséquences. Le syndicat de l'arbitrage français a communiqué, une plainte doit être déposée. Mais avant de revenir sur cet épisode hors des terrains, le match, défaite, comme à l'aller au Vélodrome. On va écouter Adrien Rabiot, le milieu olympien, qui dresse un constat assez amer de la rencontre.
On n'a pas été au niveau du tout, moi le premier. On aurait pu et dû mieux faire. On a eu les occasions pour déjà prendre l'avantage, on ne l'a pas fait. Ensuite, pour revenir au score, on ne l'a pas fait non plus. Et puis après, la partie avec un arbitrage aussi assez scandaleux sur des décisions qui fait que ce n'était pas du tout notre jour. Voilà, c'est comme ça. Mais malgré ça, on aurait pu jouer, revenir au score, même l'emporter, je pense. On l'a pas fait. Il y a eu un manque d'engagement. Techniquement, ça n'a pas été notre jour non plus. Donc voilà, il va falloir se mettre au boulot.
Il va falloir se remettre au boulot pour reprendre les mots d'Adrien Rabiot. Messieurs, qu'est-ce qu'on retient à la fin des 90 minutes, cette défaite de l'Olympique de Marseille 3-0 face à Auxerre? On retient cette masterclass des Bourguignons qui ont battu à l'aller les Marseillais au Vélodrome et qui rééditent l'exploit dans leur stade, ou on va plutôt retenir l'échec, la faillite des joueurs marseillais, Hervé Penaud?
Eh ben, d'abord, la faillite des joueurs marseillais, hein, parce que c'est vrai que bon, pour Auxerre, c'est magnifique. 6 points. En fait, s'ils rencontrent tout le temps Marseille, ils sont en Ligue des Champions. Ouais. Auxerre, c'est incroyable.
Et
vaincu.
Et champion de France.
Et champion de France. Mais il n'y a pas que deux équipes dans le championnat de France, comme vous l'avez noté. Et c'est vrai que c'est quand même assez désastreux pour une équipe de Marseille qui était quand même une super dynamique, alors qu'il ne faut pas oublier qu'Auxerre est une équipe qui était à la rue totale, qui n'avait plus gagné depuis 3 mois. Enfin, c'était un truc absolument
invraisemblable. Dernière victoire en novembre, je crois, en Ligue 1.
Absolument.
C'était très longtemps.
C'était vraiment invraisemblable. Et on a vu un Marseille, le Marseille qu'on n'aime pas, quoi, qui ronronne, qui n'arrive pas à trouver des solutions, avec pas mal de ratés, alors qu'on avait vu par exemple un Gouiri très efficace sur les dernières journées. Là, on n'a pas retrouvé le même Gouiri, un milieu de terrain qui était aussi en difficulté. Et puis, ça, ils le font souvent, ils peuvent être mis à mal par des contres rapides, par de la vitesse dans le dos de leurs défenseurs, et c'est ce qui s'est passé contre Auxerre. Donc oui, à mettre en avant d'abord la faiblesse de l'équipe marseillaise qu'on n'attendait pas à ce niveau-là.
Mais non, moi, je voudrais mettre en avant Auxerre qui avait tenu.
Oui, mais toi, t'aimes bien dire le contraire de ce que je dis tout le temps. J'aime pas ça, moi.
Qui est la dernière équipe à avoir tenu un échec Paris à l'extérieur, 0-0, qui avait tenu un échec Lille à domicile, 0-0. Donc, il y a une sorte de recette face au gros, qui aura pris 6 points dans la saison. Si Marseille n'est pas sur le podium à la fin de la saison,
on s'en souviendra.
Ça serait complètement dingue. Je ne vois pas comment ils peuvent finir 5e, mais oui. Je vois quand même peut-être Lille les embêter pour cette deuxième place. Ça change pas grand chose pour la qualification en Ligue des Champions, mais c'est, je trouve ça formidable que, ouais, le petit club, comme ça, arrive à leur amputer 6 points dans la saison. C'est assez rare quand même d'avoir un adversaire comme ça qui, contre lequel vous n'y arrivez pas, ni à domicile, ni à l'extérieur.
Et avec un plan de jeu assez clair. Les ailiers très, très, très rapides. On pense au but de Gaëtan Perrin qui ouvre le score avec une frappe en magnifique, tête de lucarne. On a le jeune ivoirien.
J'ai cru que c'était le choix de Dembélé presque.
C'est un but magnifique. Vous avez en fait un plan de jeu qui a considérablement gêné les Marseillais toute cette saison 2024-2025.
Comme au match aller. Hein. Exactement. Aller, ils les prennent exactement de la même manière. Et c'est même étonnant qu'à Marseille, se fasse avoir deux fois dans les mêmes situations. Mais...
C'est vrai que c'est un copier-coller, limite. Marseille avait marqué un but au Vélodrome, mais pas là.
On sait que c'est un peu la difficulté de l'OM quand ils jouent très très haut, qu'ils laissent beaucoup de profondeur dans leur dos. Ils n'ont pas des défenseurs extrêmement rapides et ils sont vite en difficulté. Je me souviens de l'exclusion de Balerdi contre Lyon. C'est pareil, une grande profondeur dans son dos. Il n'arrive pas à la combler. Alors on peut débattre de l'exclusion, mais c'était un peu le même style de situation.
Un mot rapidement sur les cadres de l'Olympique de Marseille qu'on avait mis en avant ces dernières semaines comme Adrien Rabiot, Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg ou Ismaël Benacer qui vient d'arriver à l'Olympique de Marseille face à Auxerre. Ces joueurs-là qui doivent faire passer un step à l'OM n'ont pas montré de très belles choses. C'est eux les principaux responsables de cette défaite.
Ah bah oui, on attend justement des cadres. Benacer, je ne le mettrais pas à ce niveau-là parce que Benacer, il vient d'arriver, donc c'est difficile d'entraîner.
C'est son troisième match.
Déjà, on est plutôt surpris d'avoir un Benacer à ce niveau-là. Hein. Il a physiquement, parce qu'il a quand même raté pas mal de matchs en première partie de saison. Non, mais on attend beaucoup plus de Rabiot. D'ailleurs, Rabiot l'a très bien dit. Il a dit, moi, le premier. Hein. Techniquement, on n'a pas été bon. On n'a pas su faire les efforts qu'il fallait, puis se créer des situations. Parce que c'est justement d'un joueur comme Rabiot, d'Hojbjerg, de Greenwood, qu'on attend de voir faire la différence. Malheureusement, ils n'ont pas été au rendez-vous. Maintenant, attendez, hein, ils ont quand même, sur l'ensemble de la saison, ils sont quand même plutôt présents, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui.
Donc, c'est à eux maintenant surtout de rebondir et d'avoir une redynamique positive.
Une piqûre de rappel
bien,
aussi.
Oui, c'est bien qu'ils redescendent un peu, parce que là, avec Gouiri qui était arrivé, qui marquait, j'étais en train de lire que c'était la meilleure équipe du monde. Ouais. Ça commençait un peu à m'énerver.
Et en plus, quand tu t'énerves, je sais que ça se voit. Ouais, et ça s'entend.
Vous connaissez l'extrapolation des supporters marseillais.
Il y avait une espèce de folie là depuis que Benacer est arrivé. Puis que Gouiri marquait des buts, les gens sont en train de dire que, je sais pas, c'était Liverpool, matinée de Real Madrid, avec un peu de PSG et
de temps en temps, Dominique est un peu excessif.
C'est son petit côté marseillais.
C'est son côté marseillais.
C'est son petit côté sur la canebière.
C'est d'autant plus surprenant qu'ils ont.
C'est pour ça qu'on aime ce club d'ailleurs.
Ils n'ont plus que cette compétition-là à jouer, la Ligue 1, pas de Coupe de France, pas de Coupe d'Europe. Donc je suis un peu surpris par ce dévissage, mais bon, Marseille va se remettre à l'endroit. Ils ont un bon entraîneur, ils ont un super effectif surdimensionné pour ce qu'ils ont à jouer. Donc ça va bien se passer pour Marseille.
Bon, vous parlez de dévissage.
La prochaine défaite, ça peut être que le 20 mars au Parc des Princes. Hein.
Vous anticipez déjà. Ouais. Il y a eu un dévissage, on va dire, en dehors du sportif, dans les travées du stade à Auxerre. Un certain Pablo Longoria, le président de l'OM, vraiment pas content des décisions arbitrales. On l'écoute.
Quelle corruption, c'est la corruption totale dans ces championnats de Tout corrupt. C'est la corruption. Non, regardez-moi, corruption.
Alors, pour mettre un petit peu de contexte pour nos auditeurs, les bips, c'est parce qu'il y a beaucoup de gros mots dans la prise de parole de Pablo Longoria. Il est dans les travées du stade, près des vestiaires. Le match se termine et il est excessivement énervé. Il se met à taper un peu partout.
Oui.
Même, il accroche une des caméras pour dire « c'est de la corruption, c'est de la corruption ». Voilà à peu près ce qui se passe pour ceux qui ont pu voir l'image. Avant lunaire, d'évoquer c'est le, lunaire. C'est complètement lunaire. Avant d'évoquer le comportement de Longoria, on va essayer de comprendre pourquoi il en est arrivé à cet état de énervement. On parle de décision arbitrale un petit peu polémique face à Auxerre. Enfin, on va juger si c'est polémique ou pas. Je voulais d'abord revenir sur ce qui s'est passé autour du défenseur Cornelius, puisque c'est un peu là aussi que tout démarre. Il a été exclu, ce défenseur, pour avoir pris un deuxième carton jaune. Hein, c'est pas un carton rouge direct. Parce que sur un dégagement défensif, il, en aile de pigeon, on va dire que son pied, allez, grossièrement,
son
tape,
genou, son genou,
voilà, son genou rentre dans la hanche de Ahmed Traoré, le joueur ivoirien de Auxerre. Les Marseillais ne comprennent pas ce carton jaune. Ils expliquent que c'est sur la continuité d'un dégagement défensif. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez de, déjà de ce carton jaune et donc cette exclusion ? Est-ce que c'est logique pour vous ? Est-ce qu'il y a matière à débat ?
Et moi, la seule logique, j'allais dire, c'est que je me posais la question si ça valait pas rouge direct. Alors, vous pouvez imaginer, vous pouvez imaginer que jaune, je trouve ça d'une logique absolue. Mais enfin, mais il lui explose les reins. Non, mais je ne peux même pas imaginer qu'on puisse pas mettre un jaune sur une action comme ça. C'est pas le fait qu'il ait touché la balle. Parce que parfois, vous avez des joueurs qui touchent la balle, qui font des fautes, après ça arrive. Malheureusement, ça fait partie du jeu. Il a ce qu'on appelle un geste pas maîtrisé. Mais là, il y va en geste de kung-fu. Mais enfin, mais ça n'a aucun
pour
sens.
Pour vous, il n'y a pas de débat.
Ah, mais il n'y a même pas de débat.
Je sais même pas d'où c'est. Votre intention, c'est de passer toutes les prétendues erreurs au crible, mais en fait, il n'y a aucun scandale sur ce match. Il ne s'est rien passé.
L'idée, c'est simplement de revenir sur ce que les Marseillais estiment comme polémique.
Il n'y en a pas, en fait. Il n'y en a pas. Il y a un arbitrage, un arbitre qui a fait son boulot. Ils n'étaient pas contents de sa désignation depuis le départ. Ils avaient fait un communiqué.
Oui, on rappelle. Donc, Jérémy Stinat, qui était un petit peu dans l'œil du cyclone, le match de Coupe de France, Marseille-Lille, Benassia, carton rouge à la fin. Jérémy Stinat était le quatrième arbitre. C'est lui qui a appelé Clément Turpin pour donner le rouge à Benassia. Donc, il y avait un petit contentieux et Stinat a été
désigné.
Ça s'est
poursuivi, ils ont dégoupillé en prétextant. À part s'ils avaient gagné, je pense qu'ils en auraient parlé quoi qu'il arrive, c'était prévu. Donc voilà, c'est leur saison, c'est une façon de procéder tout au long de la saison. C'est pour éviter votre ouverture, ils ne veulent pas qu'on parle du match, ils ne veulent pas qu'on dise qu'ils ont perdu, c'est un contre-feu.
Mais moi, je ne pense pas que ce soit calculé. Moi,
je pense que c'est prémédité, calculé. Alors, s'il y a défaite, s'il n'y a pas défaite,
je pense pas,
toute la saison, ils auraient eu des problèmes avec l'arbitrage, c'est fatigant.
Mais moi, je ne crois pas à cette histoire de préméditation. Parce que quand vous voyez le comportement de Longoria, ce n'est pas quelqu'un qui a prémédité quelque chose. C'est quelqu'un qui pète les plombs, tout simplement. Il est d'une nervosité, d'un énervement. C'est pas un type...
de la communication autour. Je pense que oui, Longoria, c'est impossible de savoir qu'il allait réagir comme ça. Mais peut-être sur le storytelling, en fait, autour d'une défaite de Marseille.
Oui,
oui. Oui, non, mais enfin, ils n'anticipent pas. Non, mais je veux bien qu'ils aient des idées. Mais ils n'anticipent pas déjà une défaite et déjà ce qu'ils vont dire après la défaite. Non, ce qui s'est passé, c'est que là, ils estiment. Moi, mon avis à tort, qui a effectivement une erreur d'arbitrage, parce que je pense qu'il le pense, sincèrement. Et d'un seul coup, il explose. Mais ça ne se contrôle pas. C'est l'explosion qu'il a dans le vestiaire.
Ils revoient tous sur leur téléphone 20 fois les actions.
Non, mais ils sont persuadés. Malheureusement,
même toi,
c'est
tu dis que ça peut être rouge.
Ah ben moi, à mon avis, oui.
T'as rien contre l'OM, personne n'a rien contre l'OM.
Pour eux, l'exclusion n'aurait pas dû avoir lieu, il aurait dû avoir qu'un seul carton jaune. Donc, j'avance un petit peu dans les décisions un peu polémiques. Il y a eu cette situation litigieuse dans la surface d'Auxerre avec un pénalty supposément oublié sur un contact avec Quentin Merlin. C'est très compliqué, on a revu les images à Radio Foot, c'est vraiment très très compliqué de pouvoir siffler un pénalty évident. Les Marseillais, pour eux, il y avait pénalty. Ça fait partie de ces décisions... où il n'y a pas vraiment de débat.
C'est surtout que depuis le début de la saison, on peut comprendre parfois la colère des supporters. Je ne parle pas des dirigeants parce que moi, ils donnent vraiment une mauvaise image. On peut comprendre la colère des supporters parfois sur les décisions. Il y en a eu beaucoup. Souvenir du carton rouge, c'est contre Harit face au PSG, où il tend la jambe, Marquinhos se rend dedans, c'est rouge. Là, pour le coup, c'est scandaleux. Il y a eu plein de décisions contre l'OM comme ça. Maintenant, sur ce match-là, honnêtement, il n'y a pas de scandale. En Angleterre, cette action-là, peut-être que ça joue. Peut-être qu'il n'y a pas faute, il n'y a même pas de carton jaune. Pour moi, ça vaut minimum un jaune, donc ça fait rouge. Mais c'est surtout, je suis d'accord avec Hervé, la réaction de Longoria ne correspond pas du tout à ce qui s'est passé, en fait. Il est dans un état second, Longoria. Et même au-delà, on se demande même ce qui s'est passé dans sa tête. Son comportement en tribune, il est purement scandaleux. La manière dont il s'excite tout seul au milieu d'une tribune où ils sont tous assis à le regarder comme « Mais c'est qui cet énergumène ?» C'est pas un dirigeant, l'image d'un dirigeant de club.
Il ne s'appartient plus.
Mais si on va revenir sur le comportement de Longoria, on va juste écouter nos auditeurs qui ont donné leur avis. On leur a posé la question, est-ce que Pablo Longoria est allé trop loin en évoquant l'arbitrage après le match face à Auxerre ?
Je suis vraiment navré d'entendre des propos tenus à un président d'un club vraiment si grave. Je crois que c'est dans la colère. Les arbitres de nos jours, ils ont les outils comme le VAR qui peut aussi les aider à prendre certaines décisions. Mais ça ne va pas du tout, surtout en France et en Espagne. Ça ne va pas du tout. Je suis Arsène Neldom, depuis le Tchad précisément, en Djamena.
Je m'appelle Marcus depuis Nyom à Yaoundé. Je trouve que pour le cas de Marseille, M. Longoria est allé très très loin.
C'est Malek Komla depuis Calavi, Bénin. Je conseille au président marseillais de se concentrer sur son club et que ça se joue sur le terrain. Ils n'auront qu'à arrêter d'accuser l'arbitrage parce qu'ils ne sont pas les seules victimes. Il peut y avoir des erreurs dans l'arbitrage.
Moi, c'est Franck depuis la Côte d'Ivoire. J'ai donné un carton rouge à Longoria pour sa réaction après le match, la défaite de l'Olympique de Marseille. Il a très mal agi, il ne devait pas tenir tel propos. Carton rouge à Longoria.
Mais carton rouge à Pablo Longoria, c'est un petit peu l'idée commune de nos auditeurs ce lundi. Messieurs, Pablo Longoria a pété un plomb, c'est ce qu'on disait avant le mix des auditeurs. Son pétage de plomb, j'imagine, pour vous messieurs, il est complètement inadmissible. Ça donne surtout une image complètement dégradée des dirigeants des clubs de Ligue 1.
Au moment où il y a tellement de problèmes dans le football français, notamment avec les droits télé, c'est scandaleux. Alors, dans une interview à l'agence France Presse aujourd'hui, il a corrigé le mot corruption parce que, en faisant croire que c'était pas le même mot en espagnol.
Alors, on va expliquer pourquoi aussi. C'est parce que les arbitres se sont réunis et ils ont décidé. Ils vont porter plainte individuellement.
Ils ont annoncé qu'ils allaient faire.
Sauf que ça arrive deux jours après. Ouais. Et lui, pendant deux jours, il s'est dit qu'il avait encore raison de ce qu'il disait.
Et le match était samedi soir.
C'est surtout parce qu'il va passer en commission de discipline et qu'il essaye de commencer à alléger la peine en disant pardon pour le mot corruption. Mais tout le reste, c'est scandaleux, c'est inadmissible, c'est une image absolument folle du football français. Quand ils s'engueulent pas dans les coulisses, ils s'engueulent devant les caméras de DAZN en disant championnat de merde, bah pardon, vous l'avez bippé, mais championnat de merde, alors qu'il faut justement, ils ont tellement de mal à le vendre, tellement de mal à trouver de l'argent. Bah, si le président de l'OM, qui est le club le plus puissant que le Paris Saint-Germain.
Et qui fait partie, lui, de la commission pour les droits télé, hein. Voilà. Il faut pas l'oublier.
Lui dit que c'est un championnat qui est nul, qui est corrompu. Bon, bah, alors,
et puis cette phrase de nulle part sur la Super League, si la Super League vient nous chercher, on ira. Ouais,
on l'a pas mis dans l'extrême, mais il a mélangé un petit peu.
Ça mélange tout, il mélange tout.
C'est la frustration.
Il n'est pas invité par la Super League, il faut qu'il le sache. Si jamais un jour il y a la Super League, il ne sera pas invité.
Bon, en tout cas, on a compris que la frustration avait pris le dessus dans les propos de Pablo Longoria.
C'est quand même inquiétant pour le club de Marseille, parce qu'il va falloir vite se remettre à niveau et puis remettre tout à plat, parce que vous avez donc Benatia qui a été suspendu lui aussi. Le président qui va être suspendu. Parce que
j'allais vous dire, qu'est-ce qu'il risque
Il risque cher. Il risque très cher. Alors combien
c'est quoi, très cher pour vous. S'il n'est pas suspendu jusqu'à la fin de la saison,
c'est pour moi, suspension jusqu'à la fin de la saison. À un moment donné, malgré le mea culpa de ce matin.
Mais non, mais c'est trop facile.
En disant en espagnol, le mot corruption ne veut pas vraiment
dire. Mais le mea culpa, vous avez pas cru quand même.
Mais non, vous avez vu un petit peu mon petit sourire.
Et puis le problème, c'est que le mea culpa, alors soit il a cherché dans les dictionnaires tout dimanche, parce que c'est vrai, ça a pris du temps. Et là, il s'est rendu compte le lundi, finalement, effectivement, lundi midi, que ce n'était pas exactement le même sens de la traduction.
Il faut croire qu'il avait...
Après ces comportements-là, moi, pour moi, c'est aussi la responsabilité de la Ligue et de sa gestion. Parce qu'on a laissé faire depuis quelques mois, voire quelques années, ce genre de comportement. Si on l'avait sanctionné... Parce que c'est pas la première fois qu'il pète les plombs, en fait. Hein, ou qu'il vient, après les matchs, parler à la presse...
Il est volcanique, de toute façon, Pablo Longoria.
Il peut être volcanique.
Non, il vit les matchs à fond.
Il y a des propos qui sont plus que limites. Et là, à un moment donné, parler de corruption amène les preuves.
Qu'en pense Frank McCourt, son actionnaire, un Américain de Boston qui est lisse un peu.
Qui n'a pas encore communiqué.
Ouais, je ne suis pas sûr que ça depuis sa villa de Boston, ça l'amuse. Moi, je pensais que.
Il était anti-parti, je crois, là, en ce moment.
Voilà, il y avait déjà eu des problèmes avec Mehdi Benatia, même si, peut-être que sa sanction contre. Après OM Lille en Coupe de France est disproportionnée, parce que ce soir-là, celui qui pose problème, c'est surtout Olivier Létang. Donc, c'est un très mauvais polar. Vraiment, le scénario est nul. Quoi.
Surtout que, comme vous l'avez dit, on oublie complètement le sportif.
Mais il ferait mieux de se concentrer sur la saison. Elle est intéressante.
Alors, messieurs, juste rapidement, une question pour terminer ce débat autour de l'Olympique de Marseille. Il y a quand même eu certaines décisions arbitrales depuis le début de la saison où on entend les Olympiens se plaindre. Est-ce que pour vous, on est clairement dans une paranoïa, tous les clubs sont logés à la même enseigne, ou... Vous avez souvenir quand même de quelques décisions qui sont allées à l'encontre des Marseillais.
Non, mais des décisions d'erreur d'arbitrage, il y en a eu. Sur l'OM, il y en a eu. Je regardais encore la vidéo qui avait tourné. Je parlais du carton rouge contre le PSG.
Il y a un
pénalty sur Harit qui est pas sifflé, qui est évident. Il y a le deuxième carton jaune, je crois que c'est Cornelius contre Nice. Alors qu'il replace le ballon, il est expulsé pour ça, quelque chose comme ça. Enfin, il y a des trucs qui sont lunaires. Mais de là à tirer le fil pour aller jusqu'à un complot que des arbitres s'organiseraient.
Ils ont dépassé la ligne rouge.
Pour plomber l'OM. Oui.
Mais, en plus, faut se méfier des petits raccourcis comme ça ou des petites vidéos où ils mettent les points principaux. Parce que sur 5 actions, chaque club, à mon avis, peut prendre 5 actions ou à première vue.
Je me rappelle de Lens qui avait sorti une vidéo, je crois, il y a un an ou deux, où ils avaient combiné les erreurs d'arbitrage.
Lyon, l'Olympique Lyonnais, ceci l'avait fait.
C'est fou parce que les grands clubs sont plutôt en général favorisés. Alors, selon le Real Madrid est en train en Espagne de faire une campagne pareille pour dire qu'ils sont maltraités par les arbitres. Ah, ça fait rire le monde entier, quand même. Le Real Madrid qui n'est pas favorisé par l'arbitrage, c'est une blague, j'imagine. Bon. Et le Marseille, si on prend les 10 dernières années, c'est une blague, j'imagine.
Et on reste sur certaines erreurs qui peuvent arriver, puisque, après tout, ce sont des humains qui arbitrent un match de football. Avec cette défaite, l'OM, sportivement, perd encore du terrain sur le leader incontesté de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain, et voit Lille et surtout Nice revenir, mais vraiment, vraiment tout proche.
Dembélé qui fait l'effort et qui se régale. Ousmane Dembélé, le buteur de la Ligue 1. L'OL avec 3 joueurs dans la surface. Cherki qui contrôle, qui enchaîne et qui relance la partie. 83e minute, Lyon se donne le droit d'y croire. Et c'est Nuno Mendes qui, à nouveau, est vers l'avant, superbe. Gonzalo Ramos pour Lee, pour Hakimi, et pour ce troisième but, superbe. Paris gagne 3-2 sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais.
Mais qui pourra donc arrêter cette équipe parisienne décidément insubmersible en 2025? Eh bien, l'Olympique Lyonnais était presque défaite des Gaunes 3-2 dans leur stade mené 2-0 après début d'Ousmane Dembélé encore et Achraf Hakimi qui a mis un doublé. Les Lyonnais se sont réveillés un peu trop tard. Le club de la capitale compte désormais 13 points d'avance sur le deuxième et Lyon rate une belle opportunité de se rapprocher du podium. On va écouter Georges Mikotadze, l'attaquant lyonnais qui est entré en cours de jeu. Il estime bien que son équipe, elle, est entrée trop tard dans son match.
C'est sûr qu'on a réagi trop tard. Voilà. Je pense qu'on n'a pas assez utilisé notre jeu offensif. Quand on le fait, on fait peur à tout le monde, comme le PSG. Ils ont tremblé jusqu'à la fin. Mais on a pris ces 3 buts évitables, on va dire. Et puis, on n'a pas assez montré offensivement dans les 80 minutes.
Et voilà, ils n'ont pas inventé grand-chose pendant 70-80 minutes. Avant de revenir sur le déroulé du match, il y avait un petit contexte autour de cette rencontre, une bisbille entre des présidents de club. Décidément, c'est un peu la radio foot des présidents de club de Ligue 1. John Textor et Nasser El Khelaifi sont pas très copains, les deux dirigeants. On rappelle que Nasser El Khelaifi avait traité John Textor de cow-boy dans une vidéo lors de négociations pour les droits télé.
Il y a un conseil d'administration de la Ligue il y a presque un an.
Il y a presque
En juillet.
On va dire que les relations sont assez fraîches entre les deux protagonistes. Comment est arrivé John Textor au stade du Groupama Stadium?
Avec un Stetson, c'est-à-dire un chapeau de cow-boy.
Un chapeau de cow-boy, décidément.
Ça, c'est top, ça. Franchement,
c'est la bonne com.
John Textor maîtrise quand même plutôt bien.
C'est léger, c'est rigolo, le message est passé, c'est bien, quoi.
Un peu d'autodérision aussi, c'est bien.
Un petit côté américain qui ressort. Messieurs, de la tension quand même avant le match, pendant le match, après le match. Est-ce que ce choc OL Paris, ça peut devenir aussi un des nouveaux classiques du championnat de France? Or, on enlève un peu le sportif avec la guerre entre les deux présidents qui risque pas de se régler tout de suite.
Les supporters ont bien compris que c'était une il y a une vraie animosité, il y a une vraie rivalité, je trouve plus forte même qu'avec l'OM, entre l'OM et entre les deux supporters. Historiquement, les supporters de Paris et de Marseille se détestent. Le dirigeant, Nasser El Khelaifi et Pablo Longoria, par exemple, ils s'entendent très bien. Alors que là, il y a tout. Il y a les transferts de Barcola qui est parti de Lyon pour Paris. Il y a Ryan Cherki qui a failli venir à Paris l'été dernier, ça s'est pas fait. Là, il y a une bisbille entre les deux présidents, mais très forte sur les modèles. Textor avec des arguments qui sont intéressants, qu'on mérite de nourrir le débat, de proposer autre chose que ce qu'on entend toujours. Il dit que le modèle du Paris Saint-Germain n'est pas le bon, qu'un État qui possède un championnat et un club qui écrase tout sans concurrence, c'est pas très intéressant. Donc que lui, son modèle à lui, il est plus vertueux, même si on sait qu'il y a des problèmes financiers à Lyon. Donc il a le mérite d'être un poil à gratter très intéressant. Et puis ça donne souvent des super matchs sur le terrain. Alors je suis pas trop d'accord avec vous, Sofiane, que que Lyon a failli gagner, parce que je vois pas trop à quel moment. Je suis plutôt d'accord avec Mikotadze.
Ils ont poussé sur les dernières secondes.
Oui,
ils
auraient... je suis plutôt d'accord avec Mikotadze qui critique
sur
l'entraîneur sur les 80 premières minutes en disant
toute fin de match, c'était très équilibré.
Oui, mais quand est-ce qu'on joue au foot, en fait, il dit à son entraîneur, parce que Fonseca, pour moi, c'est un entraîneur qui nous a appris avec Lille à pratiquer un bon football. Et là, je l'ai pas reconnu au moins pendant 45 minutes, où c'était un peu tristounet, quoi.
Oui. Et bon, Paris a fait aussi une première mi-temps plutôt six rythmes tranquille.
Oui, oui.
Après, avec l'avance qu'ils ont.
Ils ont du mal à trouver des espaces.
Enfin, c'est difficile de jouer contre le PSG quand même. Enfin, ce PSG-là, c'est difficile de jouer contre lui. Parce qu'il y a deux options. Hein. Soit vous faites ce qu'a fait Lyon, vous restez bas, vous laissez peu d'espace, peu de profondeur, en essayant de tenir jusqu'à la mi-temps et en disant, sur une deuxième période, on peut tout renverser. Parce que je pense que c'est impossible de jouer comme a joué Lyon la seconde période, sur deux mi-temps, c'est impossible. Ou alors vous le rentrez dedans. C'est ce que font beaucoup d'équipes en Ligue des Champions parce qu'il y a peut-être plus d'ambition dans le jeu, plus de courage, plus de moyens aussi.
Mais vu que tu vas
quand on agresse le PSG, ils sont beaucoup plus en difficulté. Comment ?
Vu que tu vas perdre, autant faire plutôt la deuxième, non ?
On ne sait pas.
Vu que tu vas perdre,
c'est un peu la mentalité de.
Autant jouer ton foot.
C'est un peu la mentalité de nombreuses équipes de Ligue 1.
Mais je suis d'accord, mais
joue ton foot.
Je pouvais comprendre que Fonseca tente ce plan-là. Il n'a pas marché. Il a presque pu marcher, même s'ils sont réveillés un peu tard. Mais on voit surtout qu'on met le PSG en difficulté quand on les agresse, quand on leur rend dedans. Parce que voilà, mais c'est compliqué. C'est compliqué.
Après, ils ont un peu baissé le pied quand même à 2-0. Il faut aussi remettre le contexte. Paris a. Tranquille, il y a aussi le huitième de finale à préparer contre.
Oui, il y a le coaching, il fait rentrer Lucas Hernandez qui est perdu.
Il y a de la Coupe de France, il y a Lille le week-end prochain.
Je ne sais pas s'ils ont volontairement laissé revenir Lyon dans le match quand même.
Peut-être indirectement, ils se sont aussi un petit peu calmés.
Ah, mais l'équipe était moins forte du coup.
Non, mais Lyon a abordé la fin de match différemment, c'est vrai. Mais là, je suis assez d'accord. Vous savez, Lyon, ils ont joué Paris, je ne sais pas combien de fois, des manières différentes, des fois en mettant du pressing. Pas de pressing, ils perdent au final. Pourquoi ? Parce que c'est pas simple. Donc Fonseca, il s'est dit quoi ? Cette fois-ci, on va faire quelque chose d'un peu différent. On va un peu les attendre. On va fermer un peu l'axe en mettant Cherki en pointe, mais justement pour descendre, essayer de bloquer un peu le centre du jeu.
Les compos
malheureusement, Cherki, malheureusement, c'est pas quelque chose qu'il a dans c'est pas son ADN quoi.
Non,
et puis surtout dans le travail défensif, il le fait pas tout de suite. Il a pas ce réflexe là, voilà. Donc il s'est peut-être un peu trompé là-dessus. Enfin trompé, mais il fallait qu'il le teste pour voir aussi ça.
Ce qui est amusant Hervé, c'est que Arne Slot avec Liverpool a fait exactement la même chose à Manchester City. Il a pas mis d'avant-centre, il a mis deux joueurs sur les côtés, il a mis Szoboszlai qui était plus ou moins faux neuf ou qui se projetait. Et eux, pour le coup, ça a marché. Mais il y a plus de talent à Liverpool, évidemment.
Oui, c'est dur de comparer Liverpool.
C'est pour ça que je suis assez d'accord. Parce que après coup, on est toujours plus intelligent, évidemment, pour juger, surtout Dominique. Mais mais c'est pour rire. Il le sait. Non, mais c'est vrai qu'à un moment, faut choisir quelque chose. Alors malheureusement,
moi, je m'appuie sur Mikotadze. Mikotadze, il est des remplaçants, donc c'est normal qu'il soit frustré. Mais quand même, il dit à son coach.
Pour un attaquant, c'était plus agréable de jouer à partir de la 80e minute.
Il dit pendant 80 minutes, on n'a pas de joueur.
Non, parce qu'il aurait aimé jouer davantage.
Mais l'entraîneur, lui, il est décisif. L'entraîneur, il pense équipe, le joueur, il pense lui-même. C'est normal, ça, c'est l'histoire du foot. C'est l'histoire de.
En tout cas, il y a eu 3-2. Et c'est vrai que Paris a quand même plutôt bien géré ce match.
Pour moi, la supériorité de Paris sur ce match, elle est incontestable.
Oui. Et là, j'ai le troisième but en tête sur la petite déviation de Gonzalo Ramos. Et je me dis que cette équipe sent quand même le football cette saison.
Bien sûr, ils ont un niveau de jeu. Il y a des bons entrants. Hein.
Un niveau de jeu collectif, c'était. Là, franchement, ce qu'a fait Luis Enrique au bout de mois et mois. Hein, parce que
à part Lucas Hernandez qui est un peu en difficulté, mais lui, c'est physique. Après, il est revenu en décembre. Il est pas en 9 mois. Là, en ce moment, même Lee fait une bonne rentrée. Moi, tout le monde est dans le ton.
On a hâte de voir le 8e de finale face à Liverpool.
Ce qui m'inquiète un petit peu avec cette équipe. C'est que vous jouiez Brest, Lyon, Nantes ou n'importe qui, vous êtes toujours en difficulté quand ça va vite dans le dos des latéraux et que à peu près chaque équipe se procure vraiment pas mal d'occasions contre ce Paris Saint-Germain.
C'est vrai qu'il y a des occasions.
Donc si vous tombez face à Mohamed Salah, c'est pas tout à fait pareil que quand vous avez Momo Baldé ou même Cherki.
Ils vont le sentir passer, a priori.
Oui, ce sera pas tout à fait
pareil. Ça rend le huitième de finale très intéressant. Messieurs, rapidement, juste sur... on parlait de Lille et de l'OGC Nice. Lille a battu l'AS Monaco, mais c'est plus de Nice que j'ai envie de parler avec vous, messieurs, rapidement, puisque Nice... Je le disais en préambule, sans faire de bruit, Nice est à 3 points. L'Olympique de Marseille, nouvelle victoire face à Montpellier, qui est bon dernier du championnat. Un match assez pragmatique, 2-0, pas énormément d'occasions, mais voilà, Nice qui. Les Aiglons qui gagnent encore et qui prennent 3 points de plus. Messieurs, est-ce que cette équipe niçoise, qui n'a pas vraiment réussi sa campagne européenne cette année, qualifiée en.
Faut la mettre de côté.
Bruno Constant a dit de la mettre de côté.
Campagne européenne, elle arrive dans des conditions particulières. Il faut se rappeler du début de saison, Francaise, il lui manque 5, 6, 7 joueurs sur blessure.
Je crois que 12 ou 13 à un moment.
C'est monté très haut. Et à un moment donné, un club comme Nice ne peut pas jouer sur deux tableaux avec autant d'absence. Et je me souviens, il faudrait demander à Patrick Julliard, grand supporter de l'UGC Nice, qui intervient ici, qui était défaitiste sur Nice parce qu'il trouvait que l'équipe. Mais il manquait 10 joueurs. Francaise, on le sait, c'est un super entraîneur. Il bâti. Ce qu'il fait avec Nice, c'est fantastique. Il montre d'ailleurs qu'il est capable de transposer ce qu'il a fait à Lens à Nice. Et une fois qu'il a récupéré tous ses blessés, bah, c'est redevenu une équipe qui joue, qui prend les initiatives, qui a une intensité dans le jeu qui est fantastique. On a, franchement, il n'y a que le maillot qui a changé. On dirait le RC Lens, quelque part. On dirait le
on
même
est,
jeu.
On n'est pas loin du RC Lens.
Alors, il y a juste un petit bémol. Il y a un petit bémol, allez, rapidement, pour cette équipe niçoise. C'est qu'ils sont, ils font n'importe quoi en Ligue Europa, c'est une chose. Mais ce qui m'a beaucoup plus gêné, c'est qu'ils fassent n'importe quoi en Coupe de France.
En Coupe.
Parce qu'ils sont battus par une équipe de N2. Ouais. Ils sont même, Corté, c'est même pas au tir au but. Hein.
C'est Corté, non ?
Sur les... Non,
c'est
sur les...
C'est
le stade Riochon.
Ouais, sur les 5 dernières minutes, en gros, ils prennent 2 buts alors qu'ils mènent 1-0.
Dont un contre, le dernier but, c'est un contre.
Quand vous êtes Nice... Vous n'avez pas le droit d'être... Enfin, pas le droit. La preuve, on peut. Mais donc, vaut mieux pas être battu par une équipe de N2. Donc, je pense que s'ils ne font pas en Ligue des Champions, ce sera quand même un échec la saison parce que vous ne pouvez pas passer à travers comme ça de deux coups.
Tu voyais Nice qualifié en Ligue des Champions au départ de la saison ?
Ah ben moi je pense que c'est une des plus grosses équipes en termes d'effectifs offensifs.
Ah mais ça non, derrière l'OM, derrière Monaco, derrière Lille, derrière...
Jouer le top 6, c'est vrai que ça paraissait envisageable. Jouer le top 3, parce que c'est ce qu'on annonce un peu, jouer
mais
le top 3.
Mais que cette réussite, elle se fait dans une relative indifférence médiatique. Oui, bon, ça, c'est pas vrai. Et surtout du public, je trouve.
Il n'y a personne.
Il n'y a personne dans le stade. Et quand tu es quatrième du championnat, troisième du championnat, il se passe quelque chose.
43 points.
Comme l'a dit Bruno... Francaise, c'est une réussite colossale j'ai pas le sentiment que sur place ça les fasse
peut-être une place sur le podium
vibrer.
Mais si on va arrêter le foot pendant quelques instants, écouter un peu de musique puisque je sens qu'il y a besoin de s'adoucir un
plaisir.
Petit peu
plaisir
exactement. Est-ce que ça adoucira Pablo Longoria? C'est pour ça que je vais de la musique
et je me mets à danser
Criollo Cynthia Luz sur ce titre qui est très très compliqué à dire. Merci au maestro Salerno. Subirus Dois Tiosin, je l'ai bien dit.
Mandei falar pra não arrastar. Não botaram fé, subir os dois tiozinhos. Bagulho só tá de rachar. Vários de campan que na de campinho. Mas quem quer preta, mas quem quer branca? Todo azul e quer rejuntinho. Em pleno domingo, fango macalã. Se nega, cê é banco.
Ce sont de Criollo et Cynthia Luz, Subirus Dois Tiosin. On n'a pas pris de vidéo, on aurait dû pour mettre.
Ah, vous auriez dû parce que je pense que ça aurait impressionné nos auditeurs.
Non mais je le sais.
Les auditrices
impressionnées. Vous impressionnez toujours nos auditeurs et auditrices. On parlait de Nice. Tiens d'ailleurs, il y a un jeune talent égyptien à Nice, Mohamed Abdelmoumen, qui n'est pas rentré face à Montpellier. Ça permet de faire un superbe point avec un autre égyptien qui lui éclabousse tout le temps de son talent les rencontres de première ligue. Je vous donne un tout petit indice, il joue à Liverpool.
Nobody better than Van Dijk and Konate. They've just changed it, and it's going to come back. And Liverpool score. It's Mohamed Salah straight from the training ground.
Mo Salah. Liverpool prend le pouvoir après 13 minutes.
And now Szoboszlai. Yes. Yes for Liverpool.
2-0. Liverpool impose sa loi, la loi du plus fort après 36 minutes. Si ce n'est pas une passation de pouvoir, cela y ressemble grandement.
Alors que certains pensaient les Reds un poil grippés ces dernières semaines, une victoire un peu compliquée contre Wolverhampton, un nul 2-2 face à Aston Villa, c'était la semaine dernière, et bien les joueurs d'Arne Slot ont remis les pendules à leur victoire 2-0 sur la pelouse de Manchester City, et Mohamed Salah a encore brillé, un but et une passe décisive pour Dominic Szoboszlai, Mo Salah qui a réagi à la victoire des siens.
C'est génial de gagner ici, d'autant plus qu'on est en course pour le titre. Et c'est incroyable parce que City est très difficile à battre à domicile. Il va falloir rester calme, bien supporter la pression, jouer notre jeu et remporter les matchs à venir. Je ne sais pas si c'est ma meilleure saison avec Liverpool. Certains préfèrent la première, d'autres préfèrent celle-ci. Pour moi, c'est aussi la saison actuelle. On est en bonne position pour remporter le championnat. Je dois essayer de faire de mon mieux et d'aider l'équipe et mes jeunes coéquipiers aussi. Ce serait super pour moi et les joueurs de remporter la première ligue à nouveau. On va essayer, on verra.
Toujours très calme et prudent, notre cher Mohamed. Salah.
Mais surtout la traduction qui est calme et prudente.
Signé Pierre Guérin, toujours calme et toujours
prudent.
Voilà,
oui,
il fallait le mettre en valeur.
C'est la voie de la constance et de la qualité. Mo Salah, messieurs en statistiques, en première ligue, c'est 25 buts et 16 passes décisives. Et je pensais m'être trompé, mais non, c'est bien ça, 25 buts et 16 passes décisives. Bruno Constant, c'est quoi les limites de Mo Salah cette saison? On a l'impression que là, il est inarrêtable.
Si, il est assez fantastique parce qu'il a quand même 32 ans, il court un peu moins qu'avant, mais je trouve qu'il... Il calcule ses efforts de manière admirable, en fait. Dès qu'il touche le ballon, dès qu'il se passe quelque chose avec lui, il est décisif. Et ça le rend encore plus fort. Et je pense que sa saison 2017-2018 était encore plus forte. Il avait des statistiques qui se rapprochaient de Messi et Ronaldo en termes de statistiques. Si Sergio Ramos, on en a parlé samedi, lui n'avait pas tordu l'épaule en finale de Ligue des Champions, je pense qu'il aurait pu être ballon d'or cette année-là. Mais là, pour moi, il est à l'apogée. Il a pleine maturité. Il contrôle tout ce qu'il fait. Il a une domination sur son adversaire, sur Guardiola, qui fait quand même 1m85, lui fait 1m75. La manière dont il bouscule Guardiola et il domine ce défenseur, c'est phénoménal. Et voilà, il porte Liverpool. Il n'est pas tout seul à Liverpool, hein. Mais c'est un joueur qui est fantastique à avoir joué.
Actuellement.
Ouais, je pense
pour moi,
aussi.
C'est le meilleur joueur du monde. Après, on a le droit de préférer Rafinha, Lamine Yamal. Pour moi, c'est Mohamed Salah, pardon.
Mbappé.
Bah, sur la saison, depuis la saison, début de saison, non.
Ah, tu veux dire sur la saison.
Oui, sur la saison, depuis le début de saison, pour moi, c'est le joueur le plus impactant.
Il y a peu d'égal à Mohamed Salah cette saison, en termes déjà de statistiques et d'impact sur le jeu.
Ouais, il y a un truc qui est fort, Sofiane, chez les grands joueurs, c'est quand ils ont une spéciale et qu'ils continuent à la réussir, même à 32 ans. Comme Robben, comme ces joueurs. Lui, c'est rentrer sous son pied gauche, enroulé. Ça marche toujours. Tout le monde est prévenu sur Terre. Nuno Mendes le sait. Il va quand même se prendre un but comme ça au Parc des Princes.
Vous anticipez les buts aussi.
Je sais. Je sais qu'il va marquer comme ça au Parc des Princes, dans la lucarne droite.
Là, vous n'avez pas simplement invité un journaliste, mais un devin.
Un devin, bien sûr. Dans la lucarne droite.
Ce sera pas payé plus, mais...
Ça, je sais pas.
Dans la lucarne droite de Donnarumma. Je préfère vous le dire, bien sûr.
Il a quand même enchaîné 11 matchs avec au moins un but et une passe décisive dans chacun des matchs. Le dernier qui a fait ça, c'est quand même Lionel Messi. Et ça date de 2014-2015. Donc ça place quand même le niveau de Salah aujourd'hui qui est juste exceptionnel. Et moi, je rêve qu'il soit Ballon d'Or.
Ah oui.
Parce que sur sa carrière, je pense qu'il la mérite au moins.
La saison et la carrière.
Moi, ce qui m'a étonné cette année, c'est que je trouve qu'il a changé son jeu. On parlait de Ronaldo à une époque qui changeait son style. Il s'est adapté. Il fait moins de courses qu'avant, effectivement. Il fait beaucoup moins d'efforts, entre guillemets. Et surtout, il touche
pas
moins la balle.
Hein,
il touche
pas
beaucoup.
Défensivement.
Oui, il en fait.
Il touche beaucoup moins la balle. Non, mais il touche beaucoup moins. Il est beaucoup moins dans le jeu, entre guillemets. Et il joue les coups sûrs, d'une certaine manière. Et c'est vrai qu'il est capable de faire des différences individuelles. Ses déplacements incroyables, mais ça, il a toujours eu ça pour lui. Et à la rigueur, il élimine même peut-être un peu moins qu'avant, à une époque où il éliminait beaucoup plus. Et là, il sait se placer. Et ça me rappelle un peu le Ronaldo qui, d'un seul coup, s'était devenu un pur buteur. Et lui, est devenu buteur et passeur, parce qu'il met beaucoup de passes aussi. Mais surtout en changeant un peu son style.
Oui, et il défend quand même beaucoup, hein, parce que les latéraux à Liverpool, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et franchement, ils sont bien aidés de chaque côté par Diaz et Salah quand même. Hein.
Il fait des efforts. Bah, Robertson le disait. Il dit la manière dont les deux sur les côtés défendaient, notamment Salah, il disait il défend, il aide, il est. Il se comporte en patron, en leader, quoi. Il n'est pas capitaine, mais c'est presque le patron de cette équipe, quoi.
Mais c'est une intelligence, ça, Hervé, ce que tu dis, de s'adapter quand on a 32 ans.
Je croyais que ce que j'avais dit était intelligent. Bah, déjà, j'aurais dit bravo, c'est très bon.
Mais là. C'est intelligence que tu as dit. Ensuite, ça montre l'intelligence de jeu du joueur. Ronaldo, il a 40 ans, il continue à jouer au foot. Bon, certes, dans un championnat mineur, mais c'est extrêmement incroyable ce qu'il fait. Et Salah, à 32 ans, de dominer quand même le meilleur championnat du monde.
C'est avec la même volonté,
d'ailleurs, il y a vraiment une similitude entre les deux physiquement. Salah, il n'a jamais été comme ça, quoi. Il est musculature extraordinaire, oui. il est fit. Et effectivement, il se rapproche de Ronaldo. Et lui, dans ses discours d'il y a quelques mois ou un an, on parle beaucoup de l'Arabie Saoudite parce qu'il n'a toujours pas prolongé à Liverpool. Et lui, il disait non, moi je vais jouer au plus haut niveau, je vais jouer la Première Ligue, la Ligue des Champions tous les ans. Donc il a 32 ans, je pense qu'il se projette encore 2 années à Liverpool. On verra s'il prolonge. Moi, je pense qu'il prolongera parce qu'il n'y a pas meilleur terrain, meilleur club pour lui pour remporter les trophées.
Messieurs, paradoxalement, Liverpool a remporté ce match 2-0, mais c'est City qui a le plus tiré, 16 frappes contre 8 pour Liverpool. C'est vrai qu'en seconde
période, illusoire.
City a un peu plus dominé en seconde période.
Jérémy Doku, il a fait 19 dribbles sur ce match-là. C'est un record depuis plusieurs années en Première Ligue. Pas une seule fois, il a amené du danger sur le but d'Alisson. Donc, c'est illusoire. C'est Liverpool qui a délaissé un peu la possession. Ils sont bien défendus, ils ont ouvert le score et puis ensuite ils ont joué en contre. Toutes les équipes qui jouent en contre contre City, ils finissent par les battre. De toute façon, tout le monde bat City en ce moment. Mais voilà, c'était illusoire cette possession et la domination de City.
Mais le côté dominant qu'on pouvait prêter à Liverpool ces dernières semaines,
ils s'adaptent beaucoup plus.
C'est un peu moins le cas actuellement.
Ils s'adaptent beaucoup plus à l'adversaire. C'est pour ça que face au PSG, je serais curieux de voir leur comportement. Mais c'est Arne Slot, il s'adapte beaucoup à l'adversaire. Il est très intelligent dans ses choix, très intelligent dans les choix coaching en deuxième période sur les remplaçants. Là, par exemple, sur le match, il n'a pas fait rentrer aucun des attaquants, ni Darwin Núñez, ni Jota, et pour jouer contre City. Donc, tout ce qu'il fait intelligent, le but sur corner, pareil, c'est une équipe qui marque quasiment pas de buts, ou très peu de buts sur coup de pied arrêté. Et là, ils te sortent une combinaison qu'on n'avait jamais vue et qui fait mouche, quoi.
C'est quand même une bonne semaine. Ils vont faire nul à Villa. Alors, Villa, c'est quand même pas rien. C'est aussi huitième de finaliste de Ligue des Champions. Ça a une chance quand même d'aller en quart.
4 points à Villa et à City, c'est quand même...
Franchement, c'est une bonne semaine. Ouais. Moi, pour une équipe qu'on me disait à poil
C'est ce qu'on entendait.
C'est ce que j'ai entendu au tirage au sort. Je pense que Paris a hérité de la meilleure équipe du monde, tout simplement. Et qu'elle le reste. Et qu'elle est,
c'est vrai qu'on a beaucoup entendu.
Elle n'est pas injouable.
Je ne sais pas si après une victoire contre City, que vraiment tout le monde bat, et même Arsenal les bat, même Manchester United qui a la rue, même Tottenham qui a la rue. C'est pour ça que je ne sais pas si... Ce match-là, cette victoire-là, nous conforte dans l'idée que Liverpool est au-dessus.
Je parle de la semaine, Bruno.
Oui, non, mais la semaine, elle est au fil.
4 points, voilà. C'est...
Non, mais c'était un ralentissement. Voilà, c'était pas un coup de mou.
On est sur un petit ralentissement, mais on n'est pas sur une sortie de route.
Ça reste la meilleure équipe du...
Paris est prévenu, messieurs. Par contre, là, ça se passe un peu moins bien pour Arsenal. Qui voulait encore viser le titre, mais là, ça devient de plus en plus compliqué pour nos amis Gunners. Défaite face à West Ham, qui lutte pour son maintien dans l'élite. J'ai noté seulement 2 frappes cadrées. Alors, on rappelle quand même que les Gunners sont amputés de beaucoup de joueurs offensifs.
Leurs 2 avant-centres et les 2 ailiers.
Vous m'arrêtez si je me trompe. Saka, Martinelli, Havertz,
sont out. On dirait Nice en début de saison.
Quand on n'a pas d'attaquant, on ne peut pas marquer.
Ils font jouer un milieu de terrain, Merino avant-centre, forcément. Alors, ça avait marché le match d'avant à Leicester. Il était rentré, il avait marqué.
Et il paraît que c'est assoupi depuis.
Là, c'est un peu compliqué.
Je crois qu'il y a un jeu de mots. Je crois qu'il y a un jeu de mots sur Merino.
Mais non, mais Arsenal, c'est la spéciale Arsenal. Il y a une expression en Arsenal, on dit same old story. Parce qu'Arsenal brillait jusqu'au mois de mars, et quand les compétitions, l'importance, la Ligue des Champions, les 8e, la course au titre, ils s'écroulent, soit sous le poids des blessures, soit les contre-performances, notamment à domicile. L'année dernière, ils perdent à domicile contre Aston Villa, à domicile contre West Ham. Cette saison, ils font pareil. Donc à un moment donné, pour moi, c'est pas fini, parce qu'on est encore trop loin de la ligne d'arrivée.
Mais c'est quand même un club qui a challengé City jusqu'aux 2 dernières journées. C'est rare de les voir aussi décrocher aussitôt.
Là, il y a 9 points d'écart, avec un match en moins pour Arsenal.
Ils peuvent revenir à 8 points.
Il y a 9
11 points.
Il y a 11 points, pardon.
Ils peuvent revenir à 8 points avec ce match en retard.
Les chiffres, c'est Bruno.
J'ai raté mon intervention
mathématique. C'était littéraire.
Et ils jouent Liverpool au mois de mai. Donc ils peuvent espérer éventuellement reprendre jusqu'à 5 points, revenir à 5 points. Après, c'est compliqué. Mais ils ont fait une erreur majeure. Cet hiver, ils ont dû recruter un attaquant avec la blessure de Gabriel Jesus. Ils ne l'ont pas fait. Ils perdent Kai Havertz derrière. Et après,
il y avait Colomani, mais ils n'en ont pas voulu.
Et c'est la Juve qui s'en lave les mains, du coup, en ce moment.
C'est mieux.
Ça se passe bien pour André Colomani. Donc, pour vous, Bruno et messieurs, on peut encore jouer le titre quand on est supporter Gunners. On peut encore se dire que la première place est jouable.
On en a parlé entre nous samedi, parce qu'on était ensemble avec Bruno. Des fois, on passe nos week-ends ensemble.
Mais c'est très bien. Vous faites ce que vous voulez, bien sûr.
Mais Liverpool n'a pas pu fêter son titre à l'année du Covid avec ses supporters. Et je pense qu'il y a une telle obsession et un telle volonté d'être champion. Alors, ça suffit pas, là, tout le monde veut être champion. Mais je pense quand même que c'est l'année de Liverpool. Ouais. Je vois pas
ça,
comment.
Oui, c'est un argument.
Mais non, non, mais c'est, ils, ont, bah, ils sont en tête. Ils sont, non,
c'est
ça,
l'année
c'est,
de Liverpool,
ils
sont champion,
ça, c'est acceptez-le.
Ça, c'est ce qui fait qu'on a envie que Liverpool gagne le titre. Moi, j'ai envie qu'il
gagne le titre. C'est pas le fait qu'ils aient plus envie qu'Arsenal.
Non, mais Dominique, c'est vrai que ça, c'est exaucé.
Mais en Angleterre, on a déjà vu des retournements assez invraisemblables, notamment en 2012, Agüero, but de la dernière seconde.
Salah l'a dit, de toute façon. Salah l'a dit, cette année, s'il y a quelque chose à gagner, c'est pas la Ligue des Champions pour lui. C'est le championnat. Parce que justement, il avait expliqué que la victoire, quand il avait gagné le championnat au moment du Covid, il n'avait pas pu le célébrer. Donc pour lui, c'est très très important. Mais c'est pas pour ça qu'il va pas vouloir gagner la Ligue des Champions.
On ne lui souhaite pas, mais c'est vrai que si lui, par exemple, il se blesse 2-3 semaines, il a un tel impact que par exemple.
Je me méfie. Je me méfie.
Il y a une petite grosse Salah dépendance quand même, on va pas se le cacher.
Je me méfie quand il parle comme ça, comme il est tellement devin. Ça se trouve, il est en train de nous dire quelque chose.
Bien sûr, mais vous savez ce qu'il veut. Voilà. Absence contre le Paris Saint-Germain, aller-retour, emballer ses pesées.
Sur un des deux matchs,
Parce qu'il est, pas trop gourmand.
Il revient à la 30e minute, à la 70e minute dans le match retour.
Il y avait Léo Messi qui avait fait ça une fois, et ça est mal, ça avait mal.
Ça s'est mal fini. Vous avez des souvenirs, vous avez des bons souvenirs.
Bah oui, écoutez, ça se passe pas toujours comme vous le voulez, mon cher. J'ai remarqué, oui. Messieurs, le podium rapidement, Liverpool-Arsenal, ça devrait être joué, la première place, la deuxième place. On va voir dans quel ordre. Mais il y a cette troisième place, décidément, personne n'en veut en Angleterre. Nottingham Forest à 47 points. Nottingham Forest, si je lis bien ma feuille, a perdu ce week-end.
Ouais, perdu,
il faut que je les trouve. 4 buts à 3. Vous avez donc City qui a 44 points, donc 3 points derrière, défaite face à Liverpool. Newcastle, 44 points, victoire face à Nottingham. Il y a Bournemouth qui était aussi un petit peu en ballotage favorable, défaite pour Bournemouth. Chelsea aussi, 43 points. Chelsea qui a perdu, mais qui est toujours là. Il y a aussi Aston Villa, 42 points, qui n'est qu'à 5 points de la troisième place qui a gagné ce week-end. Pour vous, qui est l'équipe la mieux armée pour être troisième? Alors, pas pour la qualification à Ligue des Champions. Pour
troisième, je pense que City, une fois qu'ils vont récupérer leur. Là, ils jouaient quand même sans Haaland, on l'a pas dit, mais ils jouaient sans Haaland. Oui. Bernardo Silva était sur le banc. Enfin, il y avait encore 5-6 titulaires absents. S'ils récupèrent leurs blessés, City doit finir troisième. Ça sera plus fort que Forest, sera plus fort que Bournemouth et toutes ces équipes-là. Newcastle est impressionnant. Newcastle, ils ont un super joueur, Alexander Isak. Je sais que le PSG avait regardé un peu parce que c'est un super attaquant.
Il va coûter cher, lui.
Il va coûter très cher.
C'est pas un problème.
Ils ont de l'argent, je pense.
C'est pas ce qui va les arrêter, je pense.
Et après.
Si c'est cher, ça les
attire.
Et après, c'est difficile à dire parce que Aston Villa s'est renforcé cet hiver avec Rashford et Asensio, donc ils sont armés pour et jouer avec des champions et briller en championnat. Chelsea, c'est une énigme. Ils font là, ils n'ont pas gagné. Enfin, ils ont fait une victoire, je crois, sur les 5 derniers matchs, quelque chose comme ça. Ils sont en train de s'effondrer un petit peu. Et après, Bournemouth, Forest, c'est compliqué à imaginer qu'ils peuvent tenir la cadence jusqu'à la fin.
Donc, le favori pour la troisième place, messieurs, Manchester City, vous êtes assez d'accord? Moi, il n'y aura pas de surprise. Un petit Bournemouth sur la dernière journée qui hop, passe.
Ils n'ont pas de bol sur ce week-end, hein, parce qu'ils sont réduits à 10 sur une expulsion qui n'avait pas lieu d'être.
Ouais.
Et ils perdent à domicile contre Wolverhampton.
Je pense que City va décrocher. Je pense que quand tu y es plus, tu y es plus, quoi. Et tu l'as dit, tout le monde les bat.
Il y a des vraies questions là-dessus. Une équipe qui n'est pas habituée à être troisième ou quatrième.
Vous parlez de la troisième place ou carrément hors du top 4?
Je parle hors du top 4.
Ah, c'est
la grosse cote.
C'est important, là, c'est la grosse cote.
Les devins doivent donner aussi des grosses cotes.
Parce que si c'est pour faire comme les autres, c'est ça.
Sinon, la cote est vraiment faible.
Je vais vous dire, Bournemouth sera champion d'Angleterre. Ça, c'est la grosse cote.
Ah oui, ça, c'est vraiment la grosse cote.
Et comme numéro 3, moi, je vois bien Newcastle. C'est histoire de dire autre chose.
Oui. En tout cas, il n'y a pas de Chelsea et pas d'Aston Villa chez vous, messieurs. Non, vous y croyez pas. J'ai eu un silence.
Aston Villa, et on ne sait jamais. Okay. Unai Emery est capable.
Bon, là, je parle vraiment de la troisième place.
Ils sont bien recrutés, ils ont pris Marco Asensio.
Ils finissent troisième ou quatrième la saison passée.
Quatrième, je crois. Et en vrai, ils sont bien recrutés pour être quatrième.
Ils ont recruté des joueurs intéressants. Asensio qui met le doublé contre Chelsea ce week-end.
Ce serait quand même mythique. C'est-à-dire que ça prouve que le niveau du championnat anglais a un peu baissé cette année. Parce que si c'est Asensio qui vous fait remonter en première place.
Tu l'aimes pas? Tu le trouves mauvais?
Ouais, vous êtes dur, Gérard Epenaud.
C'était un remplaçant à Paris, un remplaçant à Madrid. Mais c'est toujours un bon joueur.
Oui, mais enfin, si c'est lui qui te permet à ton équipe de remonter en tête du championnat d'Angleterre, ou en tout cas dans les trois premières
places. Ils feront une statue à Marco Asensio et ce sera très bien. Messieurs, c'est fini Radio Foot pour ce lundi. Annie Gasnier sera de retour demain pour de nouveaux débats foot. Messieurs, merci d'avoir participé à la fête.
Un plaisir.
Très bon.
Mais merci, des arguments toujours incisés. On salue Pierre.